Allô, Jim? Jim au réveil?
On peut pas danser, on peut même pas voler. C'est pas la peine de me réveiller.
Bienvenue.
Salut.
Salut.
Bienvenue.
Salut.
Bienvenue.
Bienvenue. Salut.
Bienvenue sur le podcast Éveille ta pépite, un podcast optimiste pour les étudiants et les doctorants qui ont envie d'entreprendre.
Alerte! Oh, réveillez-vous! Oh, hey, oh!
C'est bien connu que vous avez une drôle d'idée de la drôlerie.
Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième podcast. Aujourd'hui, on va parler d'innovation sociale. Lors du précédent épisode, on avait parlé d'innovation technologique. On avait vu notamment que l'innovation renvoie à la notion de changement et de renouvellement. Alors, pour vous parler de ce sujet, je suis allée aux 5 ans d'un incubateur de projets qui est connu sur le territoire qui s'appelle POP, donc propulseur de projets optimistes, et j'ai interrogé notamment Rémi, qui est co-directeur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, sur les clichés qu'il peut entendre.
Des clichés, on n'en manque pas. Le premier cliché, quand on parle d'innovation sociale, et encore plus quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est que ce sont des projets de wawash, des hippies qui veulent refaire le monde et qui ne sont pas en prise avec la réalité, ce qui est absolument faux, puisque c'est l'essence même de l'innovation sociale, et encore plus, ou en tout cas à la même hauteur de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est le plus gros cliché.
En effet, nous entendons régulièrement des clichés dans ce domaine. Souvent, on peut entendre que ce n'est pas viable, que ce n'est pas l'économie, qu'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire rime avec précarité, galère, que la démocratie freine l'innovation. Et j'ai aussi interrogé Nathalie, qui est porteuse de projet accompagnée par POP, qui était à l'anniversaire des 5 ans de POP, sur ce que signifie pour elle l'innovation sociale.
Pour moi, l'innovation sociale, c'est un grand mot, mais de manière très humble, en fait, ce projet, je l'ai plutôt vu pour répondre à des besoins que j'ai pu observer sur mon territoire, à la fois de par mon activité donc dans l'insertion professionnelle, où on a effectivement une offre de services assez large, mais qui ne comportait pas des activités telles que la restauration. Et donc j'ai voulu proposer ce service-là. Et donc aller plus loin en proposant un restaurant solidaire pour que l'alimentation soit accessible à un plus grand nombre. Et puis aussi au cœur, on a eu la chance de trouver un local au cœur d'un quartier important de Châtellerault et d'œuvrer avec les habitants du quartier, de connecter les personnes sur un lieu où on a envie de s'y retrouver, de partager des bons moments.
Donc POP a accompagné plus de 200 projets en 5 ans avec une création de 103 emplois. Alors oui, l'innovation sociale et aussi de l'économie. Et certains font aussi le choix dans leur fonctionnement d'être dans les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc pour vous parler de l'innovation sociale, je vous propose dans un premier temps d'écouter Guillaume qui accompagne les porteurs de projets au sein de l'incubateur POP. Et après on va rencontrer Cindy qui est porteuse de projet dans l'innovation sociale. Et on terminera avec Valentin qui est étudiant entrepreneur du Pépite qui expliquera comment il fait prendre conscience aux citoyens de penser autrement pour aller vers un futur désirable et compatible avec les limites planétaires. Donc merci Guillaume d'être parmi nous. Est-ce que tu peux nous dire comment POP accompagne les projets optimistes du territoire, s'il te plaît ?
Eh bien, POP accompagne les projets optimistes du territoire de deux manières. Déjà, on peut avoir juste une idée. On a envie de mener une idée, d'améliorer son territoire, d'améliorer quelque chose pour une population ou pour l'environnement. Et donc, on va permettre de pouvoir pousser la réflexion, de se dire c'est quoi les constats autour de l'idée, comment cette idée elle a émergé et comment je peux aller plus loin et d'établir un plan d'action. Et après, on a un système d'incubation, donc un accompagnement long, pour permettre aux projets de pouvoir se structurer, de se monter dans leur nature collective, aussi de se faire connaître vis-à-vis de leur écosystème pour vraiment avoir toutes les chances de se mettre en place sous les meilleures conditions.
Tu as rencontré du coup plusieurs entrepreneurs engagés et qui répondent à des défis sociaux, environnementaux et territoriaux. Pour toi, en fait, comment définis-tu l'innovation sociale ?
Alors, l'innovation sociale, je ne vais pas faire preuve d'originalité, je vais citer la loi de 2014 qui donne une définition de l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est une réponse nouvelle à un besoin social peu ou mal satisfait. Après, pour pousser la réflexion, il convient aussi de se dire, est-ce que la réponse que j'apporte, elle est réparatrice et elle vient essayer de réparer des conséquences de la société, de nos modèles, de notre modèle de fonctionnement à ce jour, ou est-ce qu'elle est transformatrice? Est-ce qu'elle peut permettre aujourd'hui d'explorer des horizons nouveaux? À savoir, c'est pas forcément quelque chose de cloisonné, et on peut aussi toucher un peu aux deux dans la solution nouvelle que l'on apporte.
Certaines idées reçues évoquent que les structures de l'économie sociale et solidaire ne peuvent pas être innovantes. Et en fait, que signifie déjà l'économie sociale et solidaire et en quoi les structures de l'économie sociale et solidaire œuvrent pour l'innovation sociale?
L'économie sociale et solidaire, c'est une notion de faire autrement. Toutes les structures de l'économie sociale et solidaire n'œuvrent pas forcément pour l'innovation sociale. Il y a des structures de l'économie sociale et solidaire qui ont leur mission depuis de nombreuses années, qui font ça très bien et qui vont poursuivre leur mission parce que c'est leur raison d'être. Mais il y a quand même cette notion au sein de l'économie sociale et solidaire qui est de se dire comment on améliore notre modèle de société, comment on améliore ce sujet de bien commun, et ça pousse à l'innovation, cette dynamique.
Après ce point de définition, de par ton expérience à POP, quelles sont les difficultés en fait que rencontrent les citoyens actuellement ?
Si on prend le sujet de la problématique citoyenne, les derniers sondages indiquent que c'est le pouvoir d'achat qui revient assez souvent et comment j'arrive à faire face à la vie de tous les jours. Maintenant, ce sujet du pouvoir d'achat, il est très induit aussi par quel est notre modèle de fonctionnement dans notre société où, pour avoir accès à la propriété, on va souvent s'acheter un bien sur un territoire rural, devoir faire entre 20 et 40 km, voire plus en aller-retour, pour aller travailler. Et donc, on devient très dépendant à des éléments énergétiques. Son territoire est plus un lieu où l'on réside, mais n'est pas un lieu où l'on vit à l'heure actuelle. Donc, il y a vraiment un sujet sur comment on arrive à vivre autrement et comment on commence à envisager les changements environnementaux à venir, une déperdition des énergies, des énergies fossiles qui vont être de plus en plus difficiles à se procurer, et comment on imagine un autre modèle de société. Et en fait, cette problématique citoyenne de but en blanc est souvent pensée sur le pouvoir d'achat, mais en fait, il faut amener des pièces aussi aux citoyens pour leur permettre de prendre de la hauteur sur leur situation et de pouvoir faire autrement. Mais quand il y a des sentiments de précarité, c'est d'autant plus difficile de prendre de la hauteur.
On a entendu que POP accompagne des projets collectifs. Comment en fait on accompagne un projet collectif et est-ce que le collectif signifie forcément lourdeur de prise de décision?
Déjà, c'est s'assurer que tout le monde a bien le même horizon commun dans le projet. Et donc, c'est au-delà des mots, parce que derrière un mot, peut y avoir une signification différente. C'est vraiment de pouvoir que tout le monde exprime sa vision dans ses convergences, dans ces divergences, et après de pouvoir se dire où est-ce que l'on veut aller avec le projet. Bâtir l'horizon commun est l'une des premières clés. Selon les cas de figure, on ne va pas avoir la même modalité de prise de décision au sein d'un projet à un moment ou à un autre, selon la nature de la prise de décision. Si un projet a une urgence, on peut considérer que un ou une membre du projet va être légitime pour prendre la décision. Et sur des éléments qui vont être en profondeur, là on peut aller sur des décisions par consentement, consensus, et être vraiment sur quelque chose de collectif. Pour accompagner un projet de l'innovation sociale, il s'agit de bien faire définir à quel est le besoin social peu ou mal satisfait auquel je réponds. Et en fait, il ne s'agit pas d'innover juste pour innover. L'innovation n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment de se dire à qui je réponds et comment je leur réponds. De vraiment pouvoir faire définir ceci pour que ce soit aussi bien entendu de l'écosystème et des partenaires publics avec lesquels je vais potentiellement travailler.
Cindy, tu as été accompagnée par POP. Merci d'être là aujourd'hui pour le podcast sur l'innovation sociale. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est née l'idée de votre projet ? Alors l'idée de notre projet est venue vraiment d'un besoin. En fait, François-Xavier Caillé est enseignant en musique et handicap au Conservatoire de Poitiers. Et c'est vrai que ses cours fonctionnent très très, très bien. La plupart des structures qui venaient avec donc, leurs élèves prendre ces cours de musique au Conservatoire formulaient l'envie d'avoir plus de cours, et pas uniquement en musique, et d'avoir vraiment un lieu, un pôle ressources, où ils pourraient vraiment, en fonction des envies des groupes de chacun, proposer des cours de musique, de théâtre, de chant, de danse, de yoga, de calligraphie, etc. Donc c'est vrai que François-Xavier est sensible à cette demande-là. Nous, on a eu une opportunité, en fait, en visitant des différents lieux, et on a vu cet espace qui s'y prêtait totalement, à un endroit en plus qui pour nous était stratégique, qui s'appelle donc l'Îlot Tison, qui a un lieu à Poitiers, qui est très familial, qui est très festif, qui est hyper ouvert sur le monde. Et pour nous, ça avait toute son importance de dire, ben, on va créer un lieu, un espace dédié au handicap, pas à la périphérie de la ville, mais bien au cœur de la ville, au milieu des gens, au milieu du monde et au cœur de la cité.
Guillaume l'a évoqué sur que l'innovation sociale, qu'un projet pouvait être réparateur, mais aussi transformateur. Est-ce que votre projet avec François-Xavier et toi est plutôt réparateur ou plutôt transformateur ?
Notre proposition, notre projet, il est à la fois réparateur et je pense vraiment innovant dans ce qu'il porte. Réparateur parce qu'il va venir aider des personnes en difficulté qui ne trouvent pas de réponse auprès des institutions actuelles, auprès du secteur du handicap, parce qu'il y a des manques, il y a des trous dans la raquette sur le territoire, mais aussi parce qu'au niveau institutionnel, c'est un milieu qui manque de moyens financiers, de compétences aussi. Les gens font comme ils peuvent, hein. J'accuse personne, mais il n'y a pas assez de prise en charge, ça c'est une évidence. Du coup, on va venir réparer ces endroits-là. On va aussi initier, je pense, une nouvelle façon de penser la pédagogie, la relation au travail, et aussi de donner du pouvoir d'agir aux personnes en situation de handicap. Nous, in fine, on aimerait former sur le plan professionnel des personnes en situation de handicap qui en sont capables. Envisager qu'ils aient une reconnaissance en termes de diplôme et pourquoi pas enseigner artistiquement. Ça, c'est un vrai objectif qu'on murmure là pour l'instant. Mais si on pense vraiment à notre projet dans 10 ans, moi j'ai encore une personne là qui m'a approchée qui est en situation de handicap et qui souhaiterait passer son diplôme d'état de professeur de danse. Alors nous, ce qu'on veut vraiment défendre, c'est replacer la personne en situation de handicap au même niveau que tout le monde. C'est un individu à part entière. Alors là, c'est facile, on le dit comme ça, mais finalement, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur notre territoire. Et c'est vrai que notre projet redonne en fait la possibilité à la personne en situation de handicap d'obtenir des droits culturels comme tout le monde, d'avoir des droits au niveau des cours qu'il puisse prendre, d'avoir une vie sociale, d'avoir des activités qui lui permettent finalement un bien-être, une sérénité. C'est vrai qu'on perçoit et on manque un petit peu de légitimité scientifique à cet endroit-là, mais quelqu'un qui vient prendre des cours de musique, de théâtre, de chant, de danse, en situation de handicap ou pas d'ailleurs, ça va avoir un effet s'il est médicamenté sur sa dose de médicaments, qui va être en baisse, sur ses rapports sociaux. C'est quelqu'un qui va avoir de meilleures relations au cœur de sa famille, avec les aidants, avec les éducateurs spécialisés, qui du coup, eux aussi dans leur travail, vont se sentir beaucoup mieux. Donc ça a un effet énorme en termes de ruissellement et de bien-être sur tout le monde. Et d'un point de vue économique, ça coûte moins cher, entre guillemets, à l'État aussi, puisque la prévention coûtera toujours moins cher. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut mettre dans la tête des gens, que la prise en charge tardive. Et ça, ça vaut pour tout, dans la santé. Quand on regarde vraiment tous les degrés des difficultés qu'on peut connaître au niveau sanitaire, la prévention coûtera forcément moins cher, elle est plus minime, elle est prise tout de suite. Et c'est vrai que notre projet, il porte ça en lui, vraiment. Mais l'idée, c'est d'offrir une offre culturelle et artistique très riche, un cadre professionnel sécurisant, de donner aussi du pouvoir d'agir à toutes les parties prenantes du projet, aux professionnels du médico-social, aux artistes. C'est tout ça, en fait. C'est aussi faire se croiser des publics qui ne se croisent jamais. Et au début, forcément, les gens vont se regarder, vont s'appréhender. Ce qui va être génial, c'est qu'au bout d'un an, de deux ans d'ouverture, on fera comme si de rien n'était. Et c'est ça qu'on envisage.
Ton parcours professionnel est plutôt axé dans l'art, la danse. Pourquoi s'être engagé dans le secteur du handicap ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es impliqué dans ce projet ?
Alors, personnellement, je ne suis pas touchée par le handicap. Il n'y a personne dans ma famille qui est en situation de handicap. Pour autant, il est important pour moi d'avoir des projets qui portent des valeurs, qui s'intègrent en fait dans des projets de société. J'ai besoin de cet engagement et de donner du sens à ce que je fais tous les jours en me levant le matin, à me dire que ça sert d'une façon ou d'une autre notre société. Pour moi, c'est hyper important. Je ne vois pas mon travail autrement. Étant du coup proche de François-Xavier Caillé, qui tous les jours travaillait avec un public en situation de handicap, j'ai été en fait hyper touchée. Un jour, j'ai assisté à un de ses ateliers que j'ai trouvé très émouvant. Il y avait de l'humour, c'était hyper frais dans les relations. Il y avait quelque chose sans filtre, moi, qui m'a fait énormément de bien et qui vient un petit peu contrecarrer ce qu'on peut malheureusement parfois vivre dans nos sociétés aujourd'hui où c'est devenu assez agressif dans les relations, tout ce qu'on peut subir sur les réseaux. Et là, il y avait quelque chose de tellement direct et tellement sain qui m'a rendue très heureuse et que j'ai eu envie d'accompagner. Et c'est vrai que toutes les compétences administratives que j'ai pu développer en étant administratrice de production, j'ai voulu les mettre au service de ce projet-là. Donc c'est vrai que moi, j'interviens vraiment au départ du projet pour sa structuration, lui donner des outils, lui donner un appareil budgétaire costaud, quelque chose de réaliste pour qu'en fait le projet puisse avoir lieu. Moi, c'est vraiment ça mon engagement aujourd'hui sur le projet. Et c'est vrai que fédérer des gens qui ne se parlent pas habituellement, c'est quelque chose moi, qui a beaucoup de sens pour moi. Donc ce projet porte toutes ces valeurs pour moi et c'est ce pourquoi j'ai eu envie dès le départ de m'y engager à fond.
Merci Valentin d'être présent aujourd'hui pour répondre à mes questions. La première question aussi que je souhaite te poser, peux-tu présenter ton projet entrepreneurial s'il te plaît ?
Cette année, j'ai créé une activité d'accompagnement des entreprises à la décarbonation de leur activité. Moi, je viens plutôt de la sensibilisation. J'ai animé beaucoup d'ateliers qui visent à sensibiliser aux enjeux climatiques et à faire émerger des nouvelles visions désirables du futur. Et je me rends compte que j'ai envie d'aller sur une démarche plus opérationnelle, plus pratique, et d'accompagner les entreprises sur comment, effectivement, on transitionne d'un business model traditionnel vers des activités qui sont moins émettrices de carbone ou plus respectueuses de la biodiversité.
On entend beaucoup parler actuellement de fresques. On a la fresque des climats, on a la fresque de l'esprit d'entreprendre. Il y a vraiment plein de thématiques. Toi, tu animes notamment la fresque des nouveaux récits. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ?
La fresque des nouveaux récits, c'est une expérience qui vise à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tous, en facilitant l'adoption de comportements soutenables grâce à l'imagination de nouveaux récits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a fondamentalement besoin de se représenter de manière positive un changement si on veut y aller et si on veut emmener les personnes avec nous. Aujourd'hui, la transition écologique, elle est trop souvent perçue comme un frein, une limitation de notre capacité à agir, alors qu'en réalité, c'est plus de temps de qualité, plus de relations avec les personnes, plus de connexion au vivant. Et toutes ces choses-là, on a besoin de les explorer pour se donner envie d'y aller. La fresque des nouveaux récits, c'est une expérience qui propose d'explorer sa capacité d'agir individuelle. C'est une expérience qui nous reconnecte à notre créativité collective. C'est une expérience qui nous présente les verrous socio-cognitifs à la transition qui existent aujourd'hui. Et c'est une expérience très fun qui nous fait passer souvent un excellent temps à plusieurs.
J'imagine que lors des fresques, tu entends aussi émerger des idées citoyennes. Comment en fait on fait émerger ces idées citoyennes et comment mobiliser les citoyens sur ces thématiques-là ?
Je crois qu'il y a plein de chemins qui s'ouvrent. Je crois qu'il y a des méthodes d'éducation populaire qui visent à écouter les personnes. Et là, je te parle de ça hors de la fresque des nouveaux récits, mais aller dans la rue et entendre les personnes dans les problématiques qu'elles vivent, c'est une manière déjà de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je pense qu'il faut toujours partir de l'expérience individuelle des gens, de ce qu'ils vivent en pratique. Et c'est pas évident à aller chercher, et ça suppose d'avoir une écoute ouverte, d'essayer de projeter le moins possible sur les personnes, et de pas reformuler avec des mots conceptuels des situations qui sont en fait souvent très bien décrites avec des mots du quotidien. Dans la fresque des nouveaux récits, nous, on s'intéresse aux normes sociales. Et on a tout un travail au moment de cette fresque pour essayer de définir quelle est la norme qu'on va chercher à faire évoluer. Et pour ça, ce qu'on propose aux participants et aux participantes, c'est de se concentrer sur ce qui les fait réagir, ce qui, au quotidien, leur tient à cœur et ou les exaspère, ou les met en colère, ou leur donne de l'envie, pour aller chercher des choses qui les animent. Je pense que quand on cherche à faire émerger comme ça des situations problèmes pour commencer à engager les personnes dans un processus d'action, il faut sonder si les personnes sont prêtes à prendre action sur ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on évalue au quotidien, pour lequel en fait on n'a pas d'énergie à mettre. Et si dès le départ on ne s'accorde pas sur le fait que c'est un problème qui existe chez d'autres personnes, qui est collectif et pour lequel on a envie d'agir, ça peut pas marcher.
Tu as dû entendre plein de beaux récits pendant ces fresques-là. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un récit que tu as entendu récemment ?
Récemment, j'ai pu animer pour le concours Butterfly, qui est à l'initiative du Secrétariat Général pour l'Investissement. Et c'est un concours qui réunit des jeunes de différents parcours et qui les font travailler à une vision de la France en 2050. C'est un concours prospectif. Pendant 6 mois, ces étudiants ils vont travailler ensemble et ils vont chercher à imaginer à quoi pourrait ressembler la France en 2050. Et donc j'animais une fresque des nouveaux récits à un petit groupe d'étudiants, et ils se sont rendus compte que dans l'espace public, la posture naturelle quand il y avait une interaction qui était initiée, c'était la défiance, c'était la mise en retrait, la peur, et on cherchait à éviter au maximum cette interaction-là. Parce que la plupart du temps, elle est désagréable d'ailleurs. Et ils se sont dit, mais en fait, c'est pas acceptable quoi, de vivre dans une ville qui réunit autant de personnes et d'avoir aussi peu envie d'interagir les uns avec les autres. Et ils ont réussi à comprendre que, en fait, il n'y avait pas d'éducation. Et leur idée, c'était de créer des espaces où on avait envie de se rencontrer, d'avoir une éducation à la mise en relation, à l'entrée en contact, pour essayer d'inverser cette tendance-là et de faire en sorte qu'on interagisse de manière positive dans l'espace public.
Merci à tous les trois d'avoir pris ce temps pour échanger sur cette thématique, sur l'innovation sociale. Avant de clôturer ce podcast, est-ce que vous auriez voulu que je vous pose une question vraiment en particulier ?
Moi, j'aurais voulu que tu me poses la question de l'association qui porte la fresque des nouveaux récits et que tu me demandes ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, la fresque des nouveaux récits, c'est bien sûr une expérience de 3 heures qui vise à imaginer des futurs possibles et désirables, mais c'est aussi une association qui est très active et qui porte cet outil, qui cherche à le diffuser et qui fait vivre aussi une communauté. C'est une association qui se transforme beaucoup, et aussi parce qu'elle atteint aujourd'hui un état de développement qui est plus le même qu'à la création de l'outil. On a aujourd'hui plus de 500 animateurs et animatrices, plus de 18 000 participants et participantes, et donc on a besoin d'emmener tout ce monde-là à travers la vie de l'association. Donc il y a des temps en présentiel, on vient des quatre coins de la France, il y a des personnes qui sont dans les Outre-mer, d'autres qui vivent à l'étranger, et on propose des temps pour se réunir, pour faire corps, et on a une réorganisation qui aujourd'hui nous permet de nous investir à la hauteur de ce qu'on veut faire et d'apporter notre petite pierre. En fait, dans cette association, on essaye de faire vivre en pratique ce qu'on essaye de développer, à savoir plus d'engagement, plus de pouvoir d'agir de chacun. Et ça, ça suppose une organisation. Si on n'arrive pas à se donner un cadre, une stratégie pour que chaque personne puisse participer, quel que soit son niveau de compétence, ça ne va pas marcher. Et la réorganisation qui a été faite, elle nous permet chacun de prendre la place qui est juste pour chacun et chacune.
Alors ma question, ça aurait été très généralement, comment rendre plus légitime l'économie sociale et solidaire sur notre territoire ? La rendre légitime, c'est lui donner un peu ses lettres de noblesse et les moyens qu'elle existe et qu'elle soit encore plus développée sur le territoire. C'est la rendre visible. C'est aussi lui accorder une vraie reconnaissance sur ses moyens. C'est-à-dire que oui, des projets d'ESS sans problème ont besoin d'argent, créent de l'emploi. Et je pense qu'en tant que citoyen, il faut s'emparer de ces questions pour justement créer une forme de contre-pouvoir et s'emparer de la création de la valeur, s'emparer de l'économie avec des projets qui ont juste des répercussions sur le plan humain et sociaux hyper bénéfiques pour notre société. Je pense qu'il faut oser s'embarquer sur ces projets-là et du coup rendre lisible et visible leur efficience et leur efficacité et montrer aux gens que oui, c'est possible. Et il se passe quelque chose là, dans nos sociétés. Je pense que les gens manquent un petit peu peut-être d'outils pour s'emparer et avoir des entreprises et des projets ESS.
Alors, une question qu'aurait pu se poser durant cette interview, c'est comment, en tant que citoyen, on peut arriver à formuler une idée porteuse d'utilité sociale, voire d'innovation sociale. Une méthode, c'est aussi de partir de ce que j'aime faire, mais aussi d'éléments qui peuvent hérisser le poil, qui vont me provoquer quelque chose, faire que je m'indigne. Et de pouvoir se dire comment moi je pourrais apporter une réponse, comment je pourrais résoudre ce que je vois et de commencer à en parler. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut vraiment pas se censurer et se permettre d'exprimer ce qui peut nous indigner et de pouvoir se dire comment aujourd'hui je peux me mobiliser pour changer les choses.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous venez d'écouter Éveille ta pépite, un podcast créé et animé par l'équipe du Pépite Nord-Aquitaine de l'Université de Poitiers, avec la participation de toute l'équipe du SAFIR, le service d'accompagnement à la formation, l'insertion, la réussite et l'entrepreneuriat. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons d'innovation par le design. À bientôt.